Alors, avant de tourner dans Néhémie, j'ai passé ma semaine à écrire Jérémie au lieu de Néhémie, je m'excuse. Je vais le dire tantôt. J'aimerais ça qu'on puisse aller dans la prière. Tournez quand même dans Néhémie 1, et puis on va aller dans un mot de prière ensemble pour placer nos cœurs devant le Seigneur. Et j'aimerais prier pour les familles qui passent par le deuil. On a quelques familles qui passent par le deuil actuellement. Chantal et Marc. Marc a perdu. Marc Boivin a perdu son père cette semaine. Alors j'aimerais ça qu'on puisse prier pour les familles qui traversent le deuil et qu'on puisse simplement placer nos cœurs devant Dieu. D'accord? Père éternel, si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas, Seigneur, pour le regard des hommes. Ce n'est pas pour plaire aux hommes, Seigneur. Père, si c'est le cas, viens faire un ménage dans notre cœur. Viens chasser ça de notre cœur. Nous voulons être ici pour celui qui nous a créés, pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous voulons être ici pour celui qui nous a sauvés, pour entendre ce que tu veux faire dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Bon Père, combien de fois cette semaine je me suis recueilli devant toi, confessant mon orgueil, Seigneur, les luttes qu'il y a dans mon cœur, et je me demande ce que je fais ici. Comment tu peux, Seigneur, te servir d'un pécheur pour parler, pour aider à exposer ta parole. Mais je sais, Seigneur, au fond de mon cœur, que je suis ici parce que j'ai été sauvé par grâce. Parce que ton sacrifice, Jésus-Christ, me lave de mes péchés et me permet de m'approcher du Très-Haut, d'entrer dans la présence de celui qui est trois fois saint. Seigneur, viens entendre nos prières, viens entendre les larmes aussi, vois les larmes, Seigneur. Il y a plein de gens dans cette assemblée qui voient des ruines autour d'eux. Des ruines spirituelles, Seigneur. Des ruines appréhendées, Seigneur. Des désastres annoncés. Des fois dans nos propres vies, dans nos familles, chez des collègues de travail que nous aimons tellement, Seigneur, dans la vie d'amis. Père, on te prie de te manifester par ton esprit, d'accorder une repentance profonde, Seigneur, afin que les cœurs s'humilient devant toi, que les genoux fléchissent devant toi, Père, et que tu reconstruises. Seigneur, j'aimerais t'amener ces familles qui traversent le deuil. J'ai une pensée spéciale pour Marc, Seigneur. Je te demande de mettre ta main sur son cœur, d'apporter ta consolation. Je te prie, Seigneur, de lui accorder une consolation particulière, une consolation divine, une consolation qu'il n'a jamais connue, Seigneur. Je te prie pour la famille Baskounian, Seigneur. Je te prie de consoler Antonio. Je te prie pour Daniel, Seigneur. Je te prie de consoler ses familles. Console-les avec ta parole. Que dans ta grâce, Seigneur, ta parole se rende là où elle ne s'est jamais rendue dans ses foyers, afin que leur consolation soit en toi. Père, j'aimerais te prier pour ceux qui se sont égarés, qui se sont éloignés, ceux qui sont au milieu de nous et qui sont loin de nous en même temps, parce que leur cœur n'est pas ici, Seigneur. Ceux qui ne sont pas ici et qui devraient l'être parce qu'ils ont entendu ta parole, mais attirés par toutes sortes de convoitises. Ils ont mis en oubli ta parole et ta grâce. Seigneur, nous voulons nous tenir à la brèche pour ces gens. Ouvre nos yeux, bouleverse nos cœurs, afin que nous soyons à la brèche pour ces personnes, dans la prière. Enseigne-nous cette année, Seigneur, à prier. Enseigne-nous à reconstruire. Enseigne-nous à travailler sur ces choses, à mettre de côté la paresse. Viens nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Deuxième semaine dans le livre de Néhémie. On va passer quelques mois dans ce livre-là. Néhémie commence sur un fond de désastre, de catastrophe. Néhémie, c'est un livre qui commence sur des ruines. C'est un livre qui nous parle de leadership spirituel, mais de leadership spirituel dans un contexte particulier. On parle de reconstruction. On n'est pas dans une terre vierge, on rebâtit sur le péché. On rebâtit sur une histoire de désastre, et c'est ça Néhémie. C'est un livre inspirant parce qu'on y voit à quel point une personne qui se laisse bouleverser, qui se laisse toucher, peut ensuite en entraîner une masse avec lui. On voit l'impact d'une personne qui prend Dieu au sérieux, qui s'humilie devant Dieu pour lui-même et pour les gens qu'il a à cœur et qui les amène devant Dieu. Et la différence que cela peut faire dans un champ de ruines. Alors, c'est un livre inspirant à cause de sa dimension. On parle de la reconstruction des murs de Jérusalem. C'est au-delà probablement de tout ce que vous et moi ferons dans toute notre vie. C'est énorme. Et on voit à quel point un mouvement peut naître à partir d'un homme qui se laisse bouleverser et qui s'humilie devant Dieu. Mais c'est un livre qui est inspirant aussi parce que c'est un livre personnel. C'est l'histoire d'un homme, premièrement. Il s'appelle le livre de Néhémie parce qu'il est grandement inspiré des mémoires de Néhémie. Néhémie nous raconte comment il a vécu ces moments-là. Comment est-ce qu'il a absorbé ce coup-là? Comment est-ce qu'il a réagi à ça? Et donc, c'est un livre qu'on peut s'approprier individuellement. Devant les ruines que Dieu place sous nos regards, dans notre propre vie, autour de nous. C'est un livre qui est inspirant parce qu'il nous montre comment une personne peut faire une différence dans le témoignage de Dieu au milieu d'un désastre. Ce matin, on entre dans le livre vraiment. La semaine dernière, on a fait un survol. Si vous l'avez manqué, je vous encourage fortement à prendre le temps d'aller l'écouter. Parce que la semaine dernière, ce que j'ai cherché à faire, c'est simplement de placer Esdras et Néhémie dans le contexte de l'histoire de la rédemption. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre les Écritures si vous ne savez pas de quoi je parle lorsque je parle de l'histoire de la rédemption. Vous devez comprendre où se situe cette histoire-là. Qu'est-ce que Jérusalem a comme rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du salut? Et c'est vraiment fascinant de voir combien Dieu s'est servi de ces deux hommes-là, Esdras et Néhémie, qui formaient un seul et même livre, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, pour préparer l'accomplissement d'autres prophéties qui viennent plus tard. Et donc, ce qui était essentiellement un projet à vue humaine pour Néhémie joue un rôle majeur dans l'histoire du salut. Il fallait qu'Israël revienne d'exil, rebâtisse le temple, rebâtisse Jérusalem, pour que les prophéties qui étaient à venir sur notre Sauveur puissent s'accomplir. Vous pourrez aller écouter ça sur le site web. J'aimerais vous encourager pendant les prochaines semaines à prendre le temps de lire Esdras et Néhémie. Je ne vais pas prêcher sur Esdras, mais prenez le temps de lire Esdras et Néhémie. Et si Dieu a commencé à ouvrir vos yeux et à ouvrir votre cœur pour voir avec vos yeux des ruines sur lesquelles il veut reconstruire, lisez ces livres, relisez-les à travers les prochaines semaines, à travers les prochains mois, pour pouvoir apprendre ce qu'il en coûte de reconstruire. On cherche des histoires avec des coups de baguette magique, où ça demande juste de pleurer pendant une heure et tout est reconstruit. Dieu fait des miracles semblables parfois. Généralement, Dieu fait des miracles d'une autre nature que celle-là. Des miracles qui demandent de la fidélité, de la persévérance, un travail ardu, une repentance constante. C'est l'histoire d'Esdras et de Néhémie. Et on a énormément à apprendre pour apprendre à reconstruire sur des ruines. Et trop souvent, nous cherchons ce coup de baguette magique qui va nous éviter les efforts, le travail. C'est pas comme ça qu'on bâtit. C'est pas comme ça que l'histoire de notre salut a été construite. Dieu a travaillé consciencieusement pendant des siècles. Il a usé de patience et de persévérance, de compassion envers les hommes, afin qu'un grand salut comme celui qui nous est offert en Jésus le soit un jour. On va suivre Néhémie au cours des 3 prochains mois, étape après étape. Nous allons apprendre à travailler avec acharnement. Plusieurs d'entre vous, vous avez essayé de reconstruire. Vous avez pleuré 1 heure. Vous avez regretté 3 jours. Vous avez souffert des conséquences de votre bêtise, de nos péchés. Ça entraîne des conséquences dans nos vies. Et souvent, c'est une espèce de regret qui cherche à retrouver un confort. Et dès qu'on a l'impression que le confort va revenir, les conséquences sont en train de partir, la reconstruction s'arrête. On dépose les outils et on retourne à nos loisirs, à nos plaisirs. On met l'Éternel en oubli. C'est ça l'histoire de Néhémie. C'est l'histoire d'un homme qui savait que la reconstruction, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Et nous allons apprendre ensemble à reconstruire. Je suis content qu'on passe plusieurs mois là-dedans. Parce que lui a passé 13 ans là-dessus. Et chacun d'entre nous, il y a certaines des reconstructions sur lesquelles nous allons travailler pendant 20, 30 et 40 ans. Alors, on a beaucoup à apprendre de Néhémie sur cette persévérance. Mais toute cette histoire-là commence avec une mauvaise nouvelle. Avez-vous déjà remarqué que les belles histoires commencent souvent par une mauvaise nouvelle? Connaissez-vous un bon film dans lequel il n'y a pas un drame? Ça prend un drame pour qu'il y ait une bonne histoire, non? Même les histoires que mon épouse aime, tu sais, les films de filles, il y a un drame. Moi, mon genre, c'est plutôt Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Je sais, c'est un Américain qui sauve l'humanité encore une fois. On va leur pardonner ça, d'accord? Mais Le Dernier Samouraï, puis c'est pas juste à cause des sabres, puis ça revole, puis tout le kit. C'est vrai qu'il y a mon petit côté chasseur et champ de bataille que j'aime là-dedans, mais c'est un drame, c'est un vrai drame. C'est pathétique comme histoire. J'aime ce film-là à cause de la persévérance, à cause de l'honneur qui est mis à bûcher, à travailler, à se tenir debout, à ne pas reculer, à aller jusqu'au bout. Pour avoir une belle histoire comme celle-là, ça prend un drame. Ça prend un drame énorme. Les belles histoires commencent souvent par un drame. Commencent souvent par une mauvaise nouvelle. L'histoire de notre salut commence par le péché. L'histoire de votre salut individuel commence par votre nature pécheresse. Alors, je ne sais pas quelle est la circonstance actuellement que Dieu amène à vos oreilles. Quelles sont les mauvaises nouvelles que les messagers ont apportées à vos oreilles dernièrement? Mais les belles histoires commencent généralement par de mauvaises nouvelles, par un drame. Et notre Dieu est un Dieu qui reconstruit à travers les ruines, à travers les drames. Quelles sont les mauvaises nouvelles que Dieu a portées à votre attention dernièrement? Quel est le drame qui est là autour de vous? Peut-être que c'est personnel. Comme je le mentionnais, peut-être que c'est très personnel. Peut-être que votre cœur est un champ de ruines. Mais peut-être que c'est autour de vous aussi. Et vous portez en vous-même un fardeau, un poids, une lourdeur, parce qu'il y a de mauvaises nouvelles autour de vous. Quelles sont les mauvaises nouvelles que Dieu porte à votre attention? Notre Dieu reconstruit. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, comme j'ai dit. Même dans le cas de Néhémie, il va y avoir de l'opposition de l'extérieur, de l'intérieur. Il va y avoir des souffrances, il va y avoir des moments de péril. La reconstruction va être menacée à plusieurs reprises. Mais Dieu peut faire toute une différence à travers les mauvaises nouvelles que Dieu suscite dans votre vie. Néhémie 1, on lit ensemble quelques versets. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année. Comme j'étais à Suse dans la capitale, Néhémie est en déportation, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Parce que la reconstruction a eu lieu. Le temple a été reconstruit. Néhémie est en, en déportation, il est prisonnier d'un royaume, n'est-ce pas? C'est le royaume des Mèdes qui est en train de renverser. L'empire babylonien est en train de s'écrouler tranquillement. Et Néhémie est là-bas. Et il entend des nouvelles. Et il dit, quelles sont les nouvelles de ma ville, de mon pays? Mais Néhémie a une bonne position, je l'ai dit la semaine dernière. C'est le barman privé, personnel de l'empereur. Littéralement, c'est lui qui tient sa cave à vin. Tu sais, c'est lui qui teste les vins avant. C'est pas une mauvaise job. Hein? Je sais pas, moi je pense qu'avant de laisser ça, j'y penserais. Néhémie a une bonne condition, mais il veut se renseigner. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, de la honte, de l'humiliation. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le temple a été reconstruit, mais il n'y a pas de protection autour de la ville. » C'est l'humiliation pour la ville parce que les pillards peuvent venir à tout moment, entrer de nuit, investir une partie de la ville, aller piller, se sauver de nuit encore. Et vous avez donc cette ville qui est censée être un joyau pour le nom de l'Éternel, qui est absolument sans protection. On ne peut pas protéger un territoire semblable sans avoir ses murs. Il n'y a pas d'armée entre qui veut et sort qui veut de cette ville pour piller et pour détruire. Les nouvelles sont mauvaises parce que la ville est sans protection. Maintenant, regardez bien l'attitude de Néhémie. Et selon moi, toute l'histoire du livre se joue dans le prochain verset. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Néhémie a le cœur bouleversé par les nouvelles qu'il reçoit. Il a littéralement les jambes sciées en deux. Vous connaissez l'expression « avoir les jambes sciées » ? Littéralement, c'est ce qui se passe. Néhémie est là, reçoit ses nouvelles, il a les jambes sciées, il s'assoit et il se met à pleurer sur Jérusalem. Son cœur est bouleversé de cette nouvelle. Et tout le livre de Néhémie, toute la reconstruction qui va suivre, repose sur le fait que cet homme-là a laissé son cœur être bouleversé. L'histoire pourrait être différente, parce que Néhémie avait une bonne condition. Et soyons réalistes, des murs brisés, ça ne se reconstruit pas comme ça. C'est encore un pays qui est inféodé, ils sont vraiment sous la domination d'un autre royaume. Écoute, mon homme, ça va prendre des décennies à reconstruire cette affaire-là. De quoi tu te surprends? Laissez-moi raconter cette histoire-là autrement. Imaginons un instant que Néhémie prend des nouvelles. Verset 2, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, mon cœur fut attristé. Je pleurai quelques jours et je retournai à mes activités. Ou pire encore, Néhémie aurait pu conclure à ce moment-là, mais c'est peut-être pas le temps de déménager à Jérusalem. Je travaille pour l'empereur, j'ai un super bon poste, ma retraite devrait être confortable. C'est triste, mais je te remercie, Seigneur, de m'avoir protégé de tout ça, puis d'avoir pris soin de moi. Tu m'as donné une bonne job! Voyez-vous, le livre de Néhémie pourrait avoir seulement 4 versets. Il pourrait s'arrêter au verset 4 avec un homme qui bénit Dieu parce que Dieu a pris soin de lui. Seigneur, je te remercie, tu as pris soin de moi, tu m'as donné un job, tu m'as donné un avenir, eux autres font pitié. C'est vrai que c'est triste à voir, mais je te remercie, Seigneur, tu as pris soin de moi. Néhémie 1 à 4. On passe au prochain livre de la Bible. Mais toute la suite du livre repose sur le fait que cet homme-là s'est laissé bouleverser. Il n'y a pas de suite à ce livre-là si son cœur n'est pas bouleversé. Est-ce qu'il n'aurait pas été spirituel tout simplement en disant, « Seigneur, quand relèveras-tu Jérusalem? Merci pour mon poste, ma retraite, Seigneur. Je vais continuer à prier fidèlement. Tu me permets d'aller prier chaque jour pour Jérusalem. Moi, je vais prier pour Jérusalem. » Voyez-vous, on a une espèce de vision. On a une espèce de vision de notre époque qui nous dit, nous, on voit tellement de misère, on ouvre les nouvelles que ça nous insensibilise. Quelle bêtise, cette déclaration-là! Mais c'est complètement stupide comme déclaration. Eux autres voyaient la misère, nous, on la voit pas, la misère. On vit dans un monde aseptisé. On voit même plus la bête se faire tuer avant de la manger. Comprenez-vous, je disais, t'allais t'acheter du bœuf, puis le boucher, ben il l'égorgeait là, puis il la préparait là, puis tu savais ce que ça coûtait manger un steak. Non, nous, on vit dans un monde aseptisé. Moi, je me sens pas bien quand je rentre à l'hôpital. Sois content, maintenant, on les garde à l'hôpital. Avant, ils étaient dans la rue. Ces gens-là voyaient la misère à tous les jours. Eux autres auraient pu être indifférents à force de voir autant de misère. « Ah non, mais nous, on voit beaucoup, beaucoup de douleurs à la télé, tu sais. On voit tout ça, puis ça devient comme insupportable. Fait qu'il y a quelque chose, hein, il y a un phénomène psychologique qui se passe en nous qui fait qu'on se ferme. Non, on a le cœur dur, c'est ça la vérité. On a le cœur dur et on est confortable. On est bien dans notre confort. Et on dit, « Merci, Seigneur, que je vive pas là-bas. Moi, je vis ici, Seigneur. Tu m'as donné une bonne condition, j'ai une retraite, ça va bien, je te bénis. Puis je vais garder un petit peu de temps pour prier pour eux, Seigneur. » C'est ça la vérité. Si voir la souffrance rendait le cœur indifférent, bien, Néhémie aurait eu le cœur indifférent. Les gens qui vivaient à cette époque-là auraient le cœur indifférent. Et les gens qui vivent au tiers-monde actuellement, eux autres auraient le cœur indifférent. Parce qu'eux autres voient la souffrance. Nous, on ne la voit pas. Nous, on vit dans un monde totalement aseptisé, protégé de toutes ces choses-là. Parce qu'on ne veut pas les voir. Ça dérangerait. Ça dérange un plan de carrière quand Dieu bouleverse un cœur. Laissez-moi vous le dire. Ça change un plan de retraite quand Dieu bouleverse un cœur. Ça bouleverse tes fins de semaine, ça bouleverse tes vacances. Ça change tes priorités. Et tout le livre de Néhémie repose sur ce verset-là. Est-ce que ton cœur peut être bouleversé? C'est absolument certain qu'il y a une œuvre particulière que Dieu est en train de faire à travers Néhémie. Cet homme-là avait été appelé pour un rôle spécial et c'est clair que si l'Esprit de Dieu n'avait pas fait une œuvre sur le cœur de Néhémie, son cœur aurait été indifférent. Il y avait d'autres Juifs qui pleuraient à l'époque, mais Néhémie est celui qui a décidé de passer à l'action. Alors, c'est certain qu'il y a quelque chose de spécial. L'Esprit de Dieu était sur cet homme-là. Mais voyez-vous, lorsque je replace le livre de Néhémie dans l'histoire, encore une fois, dans l'histoire du salut, mes amis, nous sommes après la venue de Jésus-Christ. Amen. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Amen. Cet Esprit habite en nous. Des Néhémies, il est censé en pleuvoir aujourd'hui. C'est toute l'idée du récit des Écritures. C'est toute l'idée du salut en Jésus-Christ. C'est que l'Esprit de Dieu ne reposera pas sur quelques individus, des prophètes, des leaders, des rois qui sont là pour ramener un peuple au cœur dur. Non, la promesse qui nous a été donnée, c'est qu'en plaçant notre foi en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et l'Esprit de Dieu fait de nous son temple. L'Esprit de Dieu n'est pas sur moi comme dans l'Ancien Testament, il est en moi. L'Esprit de Dieu est en chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Néhémie, c'était une exception dans l'Ancien Testament. Jésus nous a annoncé que Néhémie, ça serait une norme dans le Nouveau Testament. Qui que ce soit qui n'est pas d'accord avec moi, venez me contester après, venez me voir. On va regarder les promesses de Jésus. Est-ce que votre cœur est ouvert à ce que Dieu veut vous montrer? Est-ce que vos yeux sont ouverts pour voir? Est-ce que Dieu a la possibilité dans votre histoire à vous, à notre échelle, à chacun d'entre nous? Je l'ai dit tantôt, on n'est pas tous appelés à faire ce que Néhémie a fait avec Jérusalem. Mais est-ce que votre histoire va s'arrêter au verset 4? Quand Dieu va apporter à votre oreille des mauvaises nouvelles de ruines, de destruction, est-ce que l'histoire s'arrête au verset 4? Et vous bénissez Dieu de ce qu'il ne vous a pas placé dans cette mauvaise condition, de ce qu'il vous a donné plus que le manger et le boire? Ou est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire cette œuvre pour bouleverser vos cœurs? Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez le cœur dur, moi, je vous suggère ce matin que Néhémie commence à s'appliquer dans votre vie ici, au verset 4. S'il n'y a rien qui vous bouleverse pour vous faire pleurer de témoignages de Dieu qui sont brisés dans des vies ou de témoignages de Dieu qui n'est pas rentré dans un foyer autour de vous, dans le cœur de vos enfants, autour de vous et que vous êtes refroidi, Néhémie commence à s'appliquer dans votre vie ce matin au verset 4. Commencez à prier et à jeûner. Commencez à prier et à jeûner pour dire, Seigneur, mon cœur n'est plus bouleversé par rien. Sinon que lorsque tu viens déranger mes plans de vacances pour l'été prochain. Ce qui me bouleverse, Seigneur, c'est de voir mes actions qui montent et qui descendent dans mes réels. Oh, ça me bouleverse, Seigneur. Verset 4, les amis. Verset 4. Et je pourrais vous conduire dans l'Apocalypse pour vous lire les lettres de Christ aux églises et vous montrer que c'est l'intention de Christ. Maintenant, l'histoire de Néhémie, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait un cœur pour être bouleversé par Dieu et des yeux pour voir les ruines que Dieu voulait lui montrer. Et ça va tout changer. Voyez-vous, Néhémie ressemble à Jésus. Ça, c'est vraiment intéressant. Tournez avec moi dans Matthieu 23, s'il vous plaît. Lorsque Néhémie a des mauvaises nouvelles de Jérusalem, cette ville qui devait être un témoignage devant les nations pour porter le nom de l'Éternel, hein, c'était le témoignage de Dieu qui reposait là. On devait voir une ville prospérer, on devait voir une ville être bénie, une ville gérer les choses autrement, avoir des relations différentes où il y a de l'intégrité, de la droiture, de l'honnêteté. Lorsque Néhémie entend les nouvelles que les murailles sont encore détruites, il pleure. Et Néhémie ressemble à Jésus. Parce que Jésus aussi a pleuré sur Jérusalem. Dans un autre passage, avant de regarder Matthieu 23, dans un autre passage, dans Luc 19, 41, il nous est dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Littéralement qu'il a pleuré sur Jérusalem. Ce que je trouve fascinant ici, c'est que Jésus, c'est pas Néhémie. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est celui à qui, n'est-ce pas, étant le Fils de Dieu, Néhémie a adressé ses prières. Quand Néhémie a prié, le Fils, la parole, le Logos, était là, entendait les prières. Et dans Matthieu 23, nous allons avoir accès au cœur de Dieu. Quand Néhémie a prié, qu'est-ce qui se passait dans le cœur de Dieu à ce moment-là? C'est vraiment fascinant. Verset 37, Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est vraiment fascinant. Néhémie est en train de pleurer à cause de la désolation, et ici Jésus nous dit, regardez ce qui se passe au ciel. Quand Dieu regarde la dévastation sur Jérusalem, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu? Bien voici, Jésus nous le dit. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler? Combien de fois j'ai voulu vous ramener? Combien de fois j'ai voulu vous bénir? Vous êtes rebellés, vous avez péché contre moi. Je vous ai châtié selon mon alliance, fidèlement à mon alliance. Mais combien de fois j'ai voulu vous bénir? Vous savez, lorsque je dis que Néhémie avait le cœur ouvert pour que Dieu vienne bouleverser son cœur, c'est parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient faire une œuvre en nous, ouvre nos yeux pour voir des ruines, pour voir des domaines dans notre vie, dans notre couple, avec nos enfants. Lorsque Dieu nous aide à voir ces choses là où il devrait y avoir une belle empreinte, un bon parfum de Dieu, et que c'est pas ça qui est là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de le faire à travers nous. Et lorsque je ressens ces choses, ce serait vraiment bête de m'imaginer que moi je pleure sur ces ruines et que Dieu est indifférent. Ce serait vraiment bête. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans mon cœur qui m'amène à voir ces ruines. Écoutez ce que Jésus dit ici. Jésus est le Fils de Dieu qui est là et qui entend, qui voit les larmes de Néhémie. Et son cœur bat au même rythme. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur de Néhémie. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que Dieu t'a donné un cœur pour être bouleversé par des ruines spirituelles autour de toi? Quand tu vas aller dans la prière, approche-toi de Dieu avec cette conviction profonde que c'est l'Esprit de Dieu qui a placé ça dans ton cœur, et que ce sont ses propres sentiments qui sont exprimés. Cette conviction, ses yeux pour voir les ruines spirituelles, ce sont les yeux de Dieu. Parce qu'à l'homme charnel, à celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais voici ce qu'il dit, c'est très simple. C'est vrai que ça aurait pu être le fun comme projet Jérusalem, mais je te remercie, Dieu, de m'avoir donné une bonne condition ici. Si c'est ça que vous avez sur votre cœur, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mais si Dieu vous a donné un cœur pour être bouleversé, pour pleurer, approchez-vous dans la prière avec cette conviction que Dieu est en train d'exprimer ses propres sentiments. Ce constat que vous avez, cette intelligence que vous avez pour voir la dévastation du péché dans la vie des gens autour de vous, dans votre propre vie. Ne pensez-vous pas que Dieu qui est saint voit les choses aussi, est troublé par ces choses-là, est attristé par ça. La parole de Dieu est extraordinaire parce qu'ici, dans Matthieu, on a accès au cœur de Dieu et on voit sa perspective à lui. Ça va plus loin que ça, Matthieu, parce que, encore une fois, on est obligé de placer Jérusalem dans l'histoire de la rédemption. Verset 38. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette réforme qui va commencer, cette reconstruction sous Néhémie, ne produira pas tous les résultats que Néhémie aurait voulu. Parce qu'il va venir un temps où Christ va dire, maintenant je vais aller bénir d'autres peuples, parce que tu as le cœur dur, Jérusalem. Je vais aller bénir d'autres nations. Et Dieu n'a pas fini son histoire avec Israël, c'est ma conviction. Dieu n'a pas terminé son histoire avec Israël, c'est ça que je crois. Mais nous vivons à cette époque où à présent Dieu a parsemé sur toute la terre des milliers et des millions de Néhémies qui n'ont pas non seulement l'Esprit de Dieu sur eux, mais l'Esprit de Dieu en eux. Pour avoir des yeux pour voir les ruines spirituelles, des cœurs pour être bouleversés, des cœurs de chair qui peuvent voir la dévastation sans se replier sur eux-mêmes. Et ce même cœur qui est exprimé ici par Jésus, c'est encore le cœur de Dieu pour les gens autour de vous, pour votre propre vie, pour votre famille, pour la ville de Longueuil. Parce que Dieu nous dit dans Timothée qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. S'il a placé ça sur votre cœur et que vous êtes tenté tout simplement de fermer votre cœur et de dire « c'est trop lourd, Seigneur, pour que je sois bouleversé par cette réalité-là constamment. » Non, ouvrez votre cœur. Tenez-vous à la brèche, commencez à pleurer. Commencez à prier. Parce que cette conscience, cette lucidité que Néhémie avait, que vous avez lorsque vous regardez la ville de Longueuil, vous en venez ici le dimanche matin et vous dites « oh, on m'en est quoi, là? » Nouvelle vie sans frontières, mais toute la gang, 5, 6 000, même pas, qui vont vraiment aller adorer Dieu. Puis encore. Et la tentation est là de se détacher, de mon peuple, de ces gens et de dire, ben nous, tu sais, merci Seigneur pour nous. Donc, quand tu sens la tristesse monter en toi de constater ces choses, n'aie pas ça. C'est le cœur de Dieu qui est en train de s'exprimer à travers toi. Tu regardes les gens dans ta famille autour de toi et puis ça fait des années que tu leur annonces l'Évangile, tu leur prêches l'Évangile et la tentation est là de dire, ben écoute, au moins, moi je suis sauvé. Mon épouse l'est. Je pense que mes enfants, ça va aller, ils vont rentrer. Je pense que oui, la grâce est là. Je te remercie, Seigneur. Parce que la tentation est là de se replier sur nous-mêmes. C'est pas ça notre rôle, les frères et sœurs. Notre rôle à nous, c'est Néhémie. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas seulement sur nous, il est en nous. Notre rôle à nous, c'est de voir comme Christ que la moisson est grande. Et notre rôle à nous, c'est de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Que Dieu envoie d'autres Néhémies qui vont être bouleversés, qui vont se lever et qui vont commencer à reconstruire. Cette histoire-là commence par un cœur qui se laisse bouleverser. Et si ton cœur est trop dur, trop froid, si tu es trop installé, s'il n'y a plus de ruines qui te bouleversent, c'est que ton cœur s'est refroidi. Va lire l'Apocalypse cette semaine. Va lire l'Apocalypse. Lis ce que Christ dit aux églises lorsqu'elles se refroidissent. Pleure sur ton péché. Cherche sa face. Dis-lui, Père, j'entends plus ton esprit. J'entends plus ton esprit me parler. Ce qui devrait me bouleverser me laisse indifférent, Seigneur. Je me suis installé dans une espèce de confort. Est-ce que Dieu vous le bouleverse dernièrement? Ou est-ce que votre cœur est rendu trop froid pour ça? Parce que vous avez attristé l'Esprit Saint. J'ai eu la grâce de vivre personnellement des moments de repentance où Dieu venait briser mon indifférence. Il y avait une froideur dans mon cœur qui était pathétique, mais pathétique. Je disais à Dieu, Seigneur, je suis ému une heure avant d'aller prêcher le dimanche matin, Seigneur. C'est juste humain, cette affaire-là, tableau. Et je l'ai vu dans la vie d'autres personnes qui étaient là devant moi puis qui me disaient, l'Esprit ne dit plus rien. Ça ne me parle plus, ça ne me bouleverse plus. Et on savait, lui et moi, que le péché était la cause de ça. Alors, si ton cœur n'est plus bouleversé par aucune mauvaise nouvelle, commence à jeûner et à prier. Supplie l'Éternel de venir briser cette tiédeur dans ton cœur. Repens-toi. Confesse ça au Seigneur jusqu'à ce que l'Esprit vienne te réveiller et qu'il te donne un cœur pour être bouleversé et des yeux pour voir. Parce que c'est à ce moment-là que la reconstruction commence. Et Néhémie passe à l'action. Revenez avec moi dans Néhémie. Néhémie passe à l'action. Verset 4, il dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » Néhémie passe à l'action en commençant à prier. Ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que un homme et une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui est entier, c'est quelqu'un qui est complet. Il y a des gens comme moi ici qui sont des gens d'action. Je vous l'ai dit. J'ai commencé à dire à Dieu, « Commence à m'enseigner à prier, Seigneur. commence à m'enseigner. Cette semaine, j'ai dû me repentir d'avoir pris des engagements avant d'avoir consulté l'Éternel. Honnêtement, j'ai passé pour un cocombe. Vraiment, j'ai passé pour un cocombe. Je le sais. Puis là, je m'en venais ce matin, puis je me torturais avec ça toute la semaine parce que j'ai dû me désister. Puis je m'en venais ce matin, puis j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je ne t'avais pas consulté. » Tableau, je suis nono des fois. Ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que les hommes et les femmes de Dieu, dans les Écritures, sont des gens entiers. Néhémie est un homme d'action. D'accord? Toutes les personnes ici qui vous disent, « Ouais, toi tu pries, moi je suis un gars d'action. » C'est stupide ce que vous pensez. C'est insensé. Et Dieu nous accorde la grâce de le voir avec des gens comme Jésus. Non, Jésus, ce n'est pas un homme d'action. Non, 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 il se fait crucifier. Ça, c'est passif en Titi, ça. Frappe encore, frappe encore. Non, c'est un homme d'action, mais c'est un homme de prière. David, je vous l'ai dit, quel exemple. Vous doutez que c'était un homme d'action, rentrez sur le champ de bataille contre lui. Le dernier samouraï, là, c'est rien, tu sais. Tom Cruise, come on, va-t'en sur ta plage là-bas à Hollywood, là. Non, mais David, c'est un homme de prière. C'est un homme d'action. Néhémie, c'est un homme d'action. On va le voir dans les prochains mois. C'est un homme consciencieux. C'est un homme qui prend tous les risques. C'est un homme d'action. Il commence là où on doit commencer. Et il va continuer dans la prière. Je crois que Dieu voulait qu'on prenne le livre de Néhémie pour les prochains mois parce que Néhémie continue à prier. On ne commence pas par la prière, on prie. On commence par prier. Et on prie. Et Néhémie va prier tout le long. Tout le long. Et la raison est simple. La raison est fort simple. Néhémie sait que ce n'est pas une entreprise humaine qu'il veut faire. Alors, si vous voulez vous construire quelque chose de très humain, ne priez pas. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. Faites-le pas. Priez pas. Allez-y. Foncez, mes amis. Vous allez vous construire une belle affaire bien humaine à vous. Après ça, vous ferez comme moi. Vous demanderez pardon, puis vous aurez de l'air cocon, comme moi. Mais Néhémie commence et il passe à l'action parce qu'il est important. Combien de temps est-ce que Néhémie va prier comme ça? Regardez le passage du verset 11 au verset 12, au chapitre 2, verset 1. Lorsqu'on arrive au début du chapitre 2, il nous dit « Au mois de Nisan, la 20e année du roi d'Artaxerxès. » Entre le moment où Néhémie reçoit la nouvelle et il est déjà déterminé à passer à l'action, d'accord? Il est prêt à tout moment à passer à l'action. Regardez comment sa prière se termine. On ne va pas voir toute la prière ce matin, je veux le compléter dans deux semaines. Mais regardez comment sa prière se termine au verset 11. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Néhémie sait ce qu'il a à faire, il faut qu'il passe à l'action. Mais entre ce moment-là et le moment où il va parler à l'empereur, il y a 4 mois qui se passent. Néhémie va prier régulièrement, jeûner régulièrement, chercher la face de Dieu régulièrement, attendant le moment que Dieu a déterminé comme étant le bon. Et pendant 4 mois, il va prier. Il est en train de passer à l'action, je vous le dis. Alors, si Dieu vous a donné des yeux pour voir des ruines et un cœur pour être bouleversé, partez pas en peur tout de suite. Partez pas en peur tout de suite. Vous pourriez dévaster davantage, vous comprenez? Vous pourriez contribuer à ces ruines-là si vous décidez que vous allez régler le problème vous-même. Non, commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier comme Néhémie prie. Regardez le début de sa prière. Exactement comme le Notre Père. Il commence avec Dieu. « Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. » Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Néhémie commence en se tournant vers Dieu, en reconnaissant que malgré toutes les circonstances, Dieu est Dieu, qu'il est grand et redoutable. Ça va plus loin que ça. Néhémie a la conviction profonde que les ruines qu'il voit C'est l'action directe de Dieu qui est venu châtier son peuple. Ça, c'est toute une perspective. Quand tu pleures sur des ruines spirituelles autour de toi et que tu es capable de voir en même temps qu'en réalité, ce sont les conséquences du péché. Mais déjà, tu peux commencer à prier comme il faut. Au lieu de crier à Dieu et de dire, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Voyez-vous un pourquoi dans la prière de Néhémie? Moi, j'en vois pas. Il y a juste des parce que. Il y a juste des parce que. Parce que tu es Dieu, nous sommes en déportation. Parce que tu es Dieu, nous avons été châtiés. Parce que tu es Dieu, les murailles ont été détruites. Parce que tu es Dieu, tu as fait alliance avec nous et fidèle à ton alliance, tu nous as châtiés. Dieu est Dieu. Dieu règne. Les châtiments de Dieu sont des manifestations de la gloire et de la puissance de Dieu. Ce ne sont pas des raisons pour se révolter contre Dieu. Non, les païens font ça, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais à nous qui avons l'Esprit de Dieu, les châtiments de l'Éternel sont des occasions de glorifier Dieu et de reconnaître qu'il est bon et qu'il est fidèle. Alors quand Dieu va vous donner des yeux pour voir et un cœur pour être bouleversé par des mauvaises nouvelles, par des ruines que vous voyez autour de vous, commencez à examiner. Si Dieu est intervenu et Dieu a châtié, et des fois on ne peut pas le savoir, on laisse ça au jugement de Dieu. Mais on commence cette prière comme Néhémie en disant, « Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es grand et redoutable, voyez-vous un, t'as-tu perdu le contrôle dans la prière de Néhémie? Voyez-vous des doutes sur la grandeur de Dieu dans la prière de Néhémie? Voyez-vous des questionnements lancés à Dieu dans la prière de Néhémie? » Non, moi je vois de l'adoration. Je vois de l'adoration. Au milieu des larmes, il est en train d'adorer Dieu. Et il se peut qu'il y ait des ruines que Dieu vous donne de voir, qui devraient vous montrer la grandeur de Dieu. Parce que Dieu arrête des gens autour de vous ou vous-même dans votre folie pour vous ramener à lui. C'est ça un châtiment de Dieu? C'est pour notre transformation et notre bien? Dieu m'a montré dans ma vie, à certains moments dans mon histoire personnelle, des moments d'humiliation profonde. Et au même moment où j'étais en train de pleurer, brisé par mon péché, je disais, je te remercie Seigneur, c'est ta grâce envers moi. Dans mon fond intérieur, je savais que Dieu exerçait sa grâce en me châtiant. Je vous parle de moi, là, de mon histoire personnelle. Le châtiment, ça fait mal. C'est une raison pour louer Dieu, pour bénir Dieu. Alors si Dieu vous montre des ruines, commencez par la prière et commencez par adorer Dieu. Commencez par reconnaître et déclarer qu'il est souverain, qu'il n'a pas perdu le contrôle, qu'il est puissant, qu'il règne. Maintenant, il y a quelque chose de particulier dans cette histoire-ci et il faut qu'on prenne le temps de le regarder ensemble. Regardez la prière de Néhémie, il dit, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. » Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Lorsque Néhémie vient dans la prière, Néhémie vient dans la prière avec une conviction profonde, solide, qui change complètement sa prière. Certains d'entre vous ce matin, vous ne comprenez pas de quoi il est question ici. Cette alliance, c'est fondamental. Néhémie n'est pas en train de prier un Dieu qu'il ne connaît pas. Néhémie n'est pas en train de prier un Dieu qu'il connaîtrait partiellement. Néhémie n'est pas en train de prier au Dieu créateur. Il est en train de prier son Dieu. Le Dieu avec lequel son peuple a fait alliance. Et c'est sur la base de cette alliance que Néhémie vient dans la prière. Vous voulez apprendre à prier? Vous voulez apprendre à prier avec conviction. Vous devez comprendre cette dynamique, cette réalité de l'alliance. Vous savez, des fois, on parle du Seigneur avec des gens, puis on veut les gagner au Seigneur, puis ils vivent des moments difficiles, puis on leur dit, « Oui, mais est-ce que tu as prié là-dessus quand même? Est-ce que tu en as parlé à Dieu? » Je le fais personnellement, je le fais régulièrement. Mais vous savez, je ne peux pas le faire de la même manière que moi, je vais prier. Et si cette personne-là me dit, « Est-ce que tu prierais pour moi? » humblement, j'ai cette conviction que j'ai un accès particulier à Dieu. Pas parce que je suis pasteur. Ça ne me donne aucun accès de plus. Parce que comme Néhémie, je suis entré dans une alliance avec Dieu. Alors voyez-vous, quand Néhémie vient intercéder, il s'en vient pas plaider simplement pour des créatures de Dieu. Il s'en vient plaider pour un peuple qui a fait alliance avec l'Éternel. C'est en vertu de cette alliance que je me présente devant toi, Dieu. Ça aussi, il faut le placer dans l'histoire. L'histoire de la Bible, l'histoire de la rédemption. Parce que vous et moi, chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans une alliance plus grande encore. Amen. La semaine prochaine, on va prendre le repas du Seigneur, non? C'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on va célébrer avec le repas du Seigneur? Une nouvelle alliance. Une alliance plus grande que celle-là. Tournez avec moi dans Luc, s'il vous plaît. Luc 22, 14. Ce matin, on apprend comment prier. Et ce qu'on va voir là est essentiel pour saisir le privilège que nous avons lorsque nous approchons Dieu dans la prière comme chrétiens. D'accord? C'est essentiel. Luc 22, 14 à 20, l'heure étant venue, c'est Luc qui nous raconte le moment où Jésus va prendre son dernier repas avec ses disciples. Jésus va inaugurer ce que nous, on va faire dimanche prochain, le repas du Seigneur. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » En prenant la Pâque, il célèbre l'ancienne alliance, mais Jésus annonce une nouvelle alliance maintenant. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Quand Néhémie va dans la prière pour Jérusalem et qu'il intercède, Néhémie approche Dieu en disant, « Dieu, j'ai le droit de venir devant toi et intercéder en faveur de Jérusalem. J'ai un droit que les autres nations environnantes n'ont pas, parce que tu as signé un contrat avec nous. Tu as fait alliance avec nous. Tu as allié, associé éternellement ton nom avec nous, Dieu. Et pour cette raison, j'ai accès. C'est au nom de l'alliance que je viens devant toi, Seigneur. Cette alliance qu'on trouve dans l'Ancien Testament était en fait une représentation d'une alliance plus grande qui devait venir. Cette alliance était célébrée à la Pâque alors qu'on sacrifiait des animaux. Mais ce sacrifice d'animaux représentait le vrai sacrifice que Christ allait faire à la croix. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et lorsque Jésus prend le repas du Seigneur avec ses disciples, il est en train d'annoncer l'inauguration de cette nouvelle alliance plus grande. Cette alliance qui est scellée par le sacrifice de son corps à la croix, de sa vie. Tournez avec moi dans Hébreux. Hébreux 9. Verset 8. Je vais vous lire un long passage d'Hébreux. Ceux qui ne sont pas familiers avec la lettre aux Hébreux, puis avec tout ça, beau sujet d'étude. D'accord? 8 à 15. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, parce que Parce que le souverain sacrificateur, dans l'ancienne alliance, devait se purifier pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu et donc n'avait pas un libre accès. Et lui seul pouvait le faire. Le peuple n'avait pas un libre accès dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint, aller dans la présence de Dieu, n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle, le premier temple subsistait, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments et les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. La nouvelle alliance. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, le céleste, dans la présence de Dieu. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, un pardon éternel. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Quand Néhémie est allé dans la prière pour Jérusalem, il s'est approché de Dieu dans la prière avec cette conviction que Dieu lui devait une oreille attentive. Parce que l'Éternel avait contracté une alliance avec Israël. Cette alliance annonçait une alliance plus grande. Celle que Christ a inaugurée par son propre sang. Et à chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans cette alliance. Contrairement à l'ancienne alliance où le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu une fois par année, dans le lieu très saint, nous avons accès quotidiennement, à chaque instant, à la présence de Dieu. Non seulement nous avons accès à la présence de Dieu, le lieu très saint où l'Esprit était, mais l'Esprit est venu habiter en nous. Voyez-vous, frères et sœurs, quand Dieu vous montre des ruines spirituelles autour de vous, tout spécialement celles qui concernent l'Église, des enfants de Dieu, des gens qui sont entrés dans cette alliance en Jésus-Christ par la foi. On ne s'avance pas dans la prière en disant « Ô Dieu, voudrais-tu m'écouter? Seigneur, pourquoi se passe-t-il cela? Seigneur, est-ce que tu daignerais me donner ton attention? » On vient dans la prière avec cette conviction profonde, mais profonde, que nous avons accès au Père, un accès grand et ouvert, parce que Dieu a contracté une alliance avec moi. Et j'ai accès dans la présence de Dieu. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, je peux venir devant Dieu et dire, « Père, toi qui as fait alliance avec moi par le sacrifice de ton Fils, Seigneur, vois la dévastation dans la vie de mon frère et de ma sœur qui s'est éloignée. Vois la dévastation dans mon foyer, là où j'essaie d'établir un témoignage pour ton nom, Seigneur. Vois mon couple qui ne va pas bien, Seigneur, là où ton nom devrait briller. Tu as fait alliance avec moi par ton sang, Jésus. Ton esprit m'habite. Vois, Seigneur. » Nous ne prions pas Dieu comme le reste des hommes, frères et sœurs. Nous prions Dieu comme ceux qui ont été choisis en Jésus-Christ. Ceux pour qui Christ a versé son sang. Ceux en qui Christ a placé son esprit. Et qui ont constamment accès auprès du Père. C'est pour ça que Jésus a dit, commencez à demander vous-même. Demandez vous-même au Père maintenant. Frères et sœurs, Dieu a placé en vous son esprit. Et Dieu veut vous donner un cœur pour être bouleversé par des ruines spirituelles autour de vous. Il veut vous donner des yeux pour les voir. Si votre cœur s'est refroidi et que vous êtes confortablement installé dans votre capitale à Suse avec votre carrière, commencez à pleurer sur votre propre cœur pour que l'Esprit de Dieu puisse vous bouleverser à nouveau et se servir de vous pour apporter des reconstructions spirituelles dans votre vie et autour de vous. Et lorsque Dieu va commencer à vous les montrer, courez pas tout de suite. Assoyez-vous et commencez à pleurer. Commencez à jeûner. Commencez à prier. Ne priez pas comme le reste des hommes qui disent « Dieu, si tu existes, fais quelque chose. » Honnêtement, ce serait blasphémé de votre part. Parce que Dieu a contracté une alliance avec vous en Jésus-Christ. Nous ne prions pas comme le reste des hommes. Nous prions comme ceux qui ont été rachetés en Jésus-Christ. Nous prions notre Père qui est dans les cieux, qui nous donne un cœur pour être bouleversé, des yeux pour voir, pour nous tenir à la brèche. Et commencez à prier. Et continuez à prier. Maintenant, je prends juste un instant pour m'adresser à tous ceux et celles qui ne sont jamais entrés dans cette alliance avec Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas faire autrement que vous adresser au Créateur. Et celui que vous aimeriez appeler votre Dieu désire être votre Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils mourir sur une croix pour vos péchés. Et il vous invite à entrer dans cette alliance et avoir cet accès sûr et certain auprès de Dieu dans la prière. Pour cela, il vous demande de reconnaître que vous êtes pécheur, de reconnaître que par vos propres forces, vous n'arriverez jamais à satisfaire à la sainteté de Dieu. N'essayez jamais de vous approcher de Dieu simplement par vous-même. Si Dieu vous accordait le privilège de vous approcher de lui sans que vous ayez été pardonné pour vos péchés, vous seriez pulvérisé, littéralement, parce que nous sommes pécheurs. Chacun d'entre nous. Mais dans sa grâce, il a pourvu un moyen de pardon par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et ce sang qui a été versé, cette scène qui est offensante, cette scène crue et violente, c'est un sacrifice que Christ a fait pour vous. Si vous voulez croire dans son sacrifice et lui dire, « Seigneur, je suis pécheur, impur au milieu d'un peuple d'impurs. Mais je veux placer ma foi en toi, Jésus, afin de devenir un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu, et commencer à prier avec conviction pour que Dieu reconstruise non seulement votre vie, mais autour de vous. » On va prier. Seigneur, ces choses sont dures à entendre à celui qui n'a pas ton esprit. Ces choses sont plates à entendre à celui qui est endormi dans son péché. Ces choses sont étourdissantes à celui qui n'a plus un cœur pour entendre, celui qui a attristé ton esprit, Seigneur. Père, pardonne-nous d'oublier, Seigneur, que ton esprit habite en nous et qu'il veut nous bouleverser, qu'il veut nous envoyer vers toutes les nations de la terre pour annoncer ton évangile. Pardonne-nous, Seigneur, de nous installer confortablement, de ne plus pleurer, Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur pour être bouleversé comme Néhémie, afin que tu puisses reconstruire. Apprends-nous à prier avec cette conviction que nous avons accès dans ta présence, Seigneur. Que nous ne prions pas comme le reste des hommes, parce que tu nous as fait grâce, parce que tu es entré dans cette alliance avec nous, Seigneur. Père, ce matin, je viens devant toi en te demandant de venir opérer un réveil spirituel dans nos cœurs, dans nos vies. Je te le demande, Père, non pas comme une faveur qui ne nous serait pas due, Seigneur. Je le demande avec cette conviction que ton esprit habite au milieu de nous, que ton esprit habite en moi, que ce désir, ce fardeau qu'il y a sur mon cœur, c'est toi qui t'exprimes, Seigneur. Que c'est ton esprit qui me donne d'être triste lorsque j'entends de mauvaises nouvelles, de débauche, de péché, de mondanité, Seigneur. d'engourdissement spirituel, d'idolâtrie, Seigneur, de refroidissement. Lorsque l'Église ressemble trop à celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est ton Esprit qui me parle, Seigneur. Alors, je ne te demande pas une faveur ce matin, Seigneur. Je te demande d'honorer ton alliance et de venir bouleverser nos cœurs par ton Esprit. Viens faire une belle œuvre au milieu de nous, afin que nous puissions exalter ton nom, Seigneur. Le cœur brisé dans les larmes, mais conscient de l'œuvre de ton Esprit en nous, pour nous donner un cœur pour être bouleversé, des yeux pour voir. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen.